Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Le titre d'aujourd'hui de mon message et mon partage, c'est « Ne le sais-tu pas ?» Et c'est extrait du prophète Ésaïe au chapitre 40 que nous allons lire dans un moment. Nous sommes ici maintenant, pendant que nous parlons, dans un contexte où nous avons entendu comme nouvelle vraiment mondiale le décès de M. Nelson Mandela. Et donc notre souhait, c'est lorsqu'un homme disparaît, que son témoignage demeure, surtout si c'était un homme de bien, et que son œuvre se prolonge. Et dans la parole de Dieu, nous voyons que si le grain qui est semé en terre, il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc au moment où quelqu'un disparaît de terre, son œuvre n'a pas besoin de disparaître. Et au contraire, la parole de Dieu nous dit que les œuvres continue derrière nous. Ce que nous avons semé, nous pouvons nous attendre à ce que ça grandisse, que ça pousse, que ça produise encore longtemps après. Nous avons une perspective particulière maintenant avec la technologie, c'est-à-dire que des hommes de Dieu ont disparu physiquement, mais leurs écrits, mais leurs enregistrements, même les vidéos, tout continue de porter du fruit. Mais même avant cette ère technologique, il y avait déjà une loi spirituelle de la part de Dieu, que nos œuvres continuent de produire quelque chose. Il y a un film qui a été produit qui s'appelle Gladiator, où il y a un slogan que j'aime beaucoup, où il est dit « Ce que nous vivons, ce que nous faisons sur terre, résonne dans l'éternité ». Donc il y a une réalité que les choses, nous sommes des esprits, qui agissons dans ce monde, dans un corps physique, avec une âme, les esprits que nous sommes avons une influence qui va au-delà de simplement notre existence terrestre. Donc ne le sais-tu pas, ça nous parle de quelque chose que nous devons recevoir par révélation, des choses que Dieu veut nous montrer, qu'il veut nous dire, et qui dépassent pour la plupart du temps nos petites nouvelles, que j'appelle vraiment petites nouvelles, pour dire tout ce que le monde parle d'actualité, et ils font des buzz, ils font des choses qui vont partout, ce ne sont des fois pas des choses tellement intéressantes ou importantes pour nous en tant qu'êtres humains. Par contre, il y a des choses que Dieu, le créateur de l'univers, a révélées de tout temps, révélé, mais ça n'est pas été reçu et montré à tous, mais révélé à quelques-uns par l'Esprit, je l'ai encore lu dernièrement, il y a des choses, il nous est dit même le message de Dieu où les anges voudraient plonger leur regard, ils voudraient découvrir, mais quels sont tous ces mystères que Dieu a communiqués à l'être humain. Et donc il y a des choses qui ont été révélées, mais il y a des choses qui ont été révélées, mais nous on ne le sait pas des fois. Donc ne le sais-tu pas, c'est un message qui est adressé à chacun d'entre nous, de savoir, ne sois pas ignorant. Reçois vraiment les informations qui sont utiles pour toi, dans ton quotidien, mais aussi pour toute ta vie. J'ai encore lu tout récemment une déclaration d'un publiciste, je peux citer le nom, c'est M. Segala, qui avait repris une déclaration de notre ancien président de la République, M. Sarkozy, qui disait qu'un homme qui a 50 ans et qui n'a pas de Rolex n'a pas réussi sa vie. Donc voilà, c'est quelque chose qui vraiment fixe une certaine direction pour la vie des gens. Voilà à quoi on mesure la réussite. Donc, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? Ça veut dire, qu'est-ce qui est important dans ta vie? Qu'est-ce qui est important? Nous vivons dans des moments importants. Des moments importants parce que il y a des signes des temps. Nous ne voulons pas prouver le retour de Jésus parce qu'il y a des tremblements de terre ou parce que ceci, parce que cela. Non, nous voulons simplement parler aux gens en disant « Voyez les signes des temps ». Nous sommes aussi dans une période que nous appelons dans le calendrier des églises le temps de l'Avent. On compte les quatre dimanches qui précèdent Noël et puis on fait un compte à rebours jusqu'à ce qui est ce moment où on commémore la naissance de Jésus. Nous savons que probablement ce n'était pas le 25 décembre, mais peu importe, c'est un moment qui a été fixé, on s'est dit, il y a un moment dans l'année où on veut se rappeler que Jésus est venu. Donc, ce moment, c'est un signe. Quel va être un moment que les gens vont particulièrement souligner dans les églises? Souvent, on dit que Jésus est venu, et il est venu sous la forme d'un petit enfant. C'est pour se rendre humble, c'est pour s'identifier à la race humaine. N'est-ce pas vrai? En général, c'est ça qu'on dit. On insiste sur le fait que, voilà, il est venu, il a quitté sa condition céleste, il n'est pas venu comme un triomphateur, comme un tyran, comme quelqu'un qui écrase tout sur son passage, mais il a pris une condition humble, vraiment de simplicité. Mais la Bible nous parle d'une loi spirituelle qui dit que celui qui veut s'élever, il sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Nous avons tout à l'heure eu un chant qui a pris une allure prophétique quand nous avons chanté « Sois élevé ». Il y a un moment où nous devons maintenant nous mettre en route pour travailler à l'avènement du Seigneur Jésus. Il nous est dit dans la parole de Dieu « Hâtez l'avènement du Seigneur ». Il y a un moment où le corps de Christ va se réveiller et va travailler à hâter le retour de Jésus. On ne va pas simplement attendre et puis il y aura alors un moment sur le calendrier de Dieu écrit « Maintenant, retour de Jésus. » Ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. C'est à la fois, il y a un désir de Dieu, mais il y a aussi un désir de l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Il faut qu'il y ait un désir. Il faut que l'Épouse désire que le Seigneur revienne. Donc, il y a un temps où on se met dans cette position. On dit « Il s'est abaissé. Il a vécu d'abord comme un simple homme. » Un moment, il a donné sa vie et puis il a été élevé. Il a été élevé d'abord sur la croix et puis il est descendu encore plus bas pour être encore plus élevé. Ça vous fait penser à quelque chose? Quand vous connaissez un peu la Bible, vous avez l'histoire de Joseph. Il est trahi par ses frères et en prison, il est élevé. Vous voyez? Il est élevé et puis de nouveau abaissé. D'abord chez Potiphar. Il est élevé et puis il est de nouveau abaissé. Donc, il y a des phases, il y a des moments où il y a de l'élévation et puis des fois, il y a aussi de l'abaissement. Mais maintenant, moi, je crois que il n'y a plus d'abaissement pour Jésus. Il y a maintenant une élévation. Il est déjà en réalité élevé à la droite du Père. On ne peut pas plus haut, hein. C'est le maximum. Mais non, je le dis avec... on peut en sourire, mais il y en a un qui a essayé. Satan a dit, je m'élèverai au-dessus du trône de Dieu. Imaginez, il voulait même pas se faire égal à Dieu. Il voulait aller au-dessus. Et comment a-t-il dit? Il a dit, et je dirai, j'utiliserai la parole. Nous avons parlé à l'instant de la puissance de la parole créatrice. Il n'avait pas le droit d'utiliser cette loi spirituelle pour essayer de combattre Dieu et de s'élever au-dessus. Ça ne lui a pas été donné, et c'est pourquoi il a été abaissé, et réduit à néant. Il n'est plus rien du tout, dit la Bible. Donc il y a une venue prochaine du Seigneur. Lorsque je réfléchissais, ou plutôt que je cherchais devant Dieu, qu'est-ce que je vais partager avec vous ce matin? Pendant plusieurs jours, ce mot est venu, ne le sais-tu pas, ne te l'a-t-on pas appris? Et mardi soir, dans notre réunion de prière, j'ai partagé Ésaïe 40, la fin du passage. Et ça semble, humainement, on aurait pu dire, c'est une bonne idée. Nous sommes un soir de semaine, on a travaillé dur toute la journée, on est fatigué. On va se donner un petit verset biblique pour se faire du bien. Et donc, j'ai partagé dans Ésaïe 40, verset 29... Dieu donne de la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Ce que je veux dire par là, c'est que on aurait pu dire, on utilise ce verset maintenant, ça va nous requinquer, ça va nous faire du bien, ça va nous booster. Mais ce n'était pas comme ça que c'est venu. C'est venu comme Ésaïe 40. Je vais le lire et le partager. Et après, je me suis aperçu que dans toute la partie avant de Ésaïe 40, il y avait ce fameux verset « Ne le savez-vous pas? Ne vous l'a-t-on pas appris ?» Vous voyez ? Ensuite, je suis remonté jusqu'au début de Ésaïe 40 pour trouver dans ma Bible qu'il y avait un titre à ce passage, et ils ont donné comme titre « Venue prochaine du Seigneur ». Dieu est éternel. Éternel, ça veut dire qu'il dure toujours, c'est-à-dire qu'il est hors du temps. Donc on prenne les choses dans un sens ou dans l'autre, ou on tourne autour, ou on rentre dedans, ça n'a aucune importance. Il est, certains théologiens l'appellent le tout autre, il est en dehors de nos conceptions, à nous, et il n'est pas dans une ligne du temps. Il est hors du temps. Donc la venue prochaine du Seigneur, elle est certaine. Et nous le disons, et nous le répétons, et nous le recevons par la parole de Dieu, et nous disons qu'il y a un temps de préparation. Un ancien premier ministre d'Israël, une dame qui est une prophète et que nous connaissons bien, avait côtoyé de temps en temps, elle était dans ces hautes sphères d'Israël, et certains ne vont jamais dire qu'ils sont ce que nous appelons juifs messianiques. Mais quelqu'un disait dans ces hautes sphères en Israël, il disait, mais qu'allez-vous faire si Jésus revient et qu'il est le Messie? Alors il va poser la question au Messie, il va dire, avez-vous visité notre pays auparavant? Comme on dit à quelqu'un qui vient dans notre pays, est-ce que vous avez déjà été en France? Et donc il disait, est-ce que vous êtes déjà venu dans notre pays auparavant? Il y a une première venue du Seigneur et il y a une deuxième venue. Et pendant ce temps, nous on peut dire aussi, on soupire. Peut-être vous êtes privilégié, vous menez une bonne vie, mais beaucoup de gens sont dans la souffrance. Et nous, si nous sommes proches du cœur de Dieu, nous avons aussi de la compassion pour des personnes qui souffrent en ce moment. On n'est pas juste content de notre confort ou de notre santé ou d'autres choses, mais on est conscient que la Bible dit la création tout entière soupire. La création tout entière. Quand on est un peu conscient de ce qui se passe actuellement sur la terre, on peut pas dire, ah, pourvu que tout aille bien pour moi, ma petite famille, mon petit job, etc. Non, il y a quelque chose de l'Esprit de Dieu qui dit non, il faut pas rester comme ça, il faut que ça bouge, il faut que ça change. Et le seul changement notable, c'est la venue du Seigneur qui va transformer les choses. Donc il peut y avoir, pour le peuple de Dieu, actuellement, une réelle souffrance. Nous avons parmi nous quelqu'un qui travaille pour le compte de l'Église persécutée. Donc, ils sont conscients, chaque jour, de prier pour l'Église qui souffre. Donc, la Bible dit, en reprenant Ésaïe 40, verset 1, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. » Quand quelqu'un souffre, il est facile de dire, si tu es malade, si tu as ceci, si tu as cela, c'est que tu es dans le péché. Et c'est vrai que d'une certaine façon, toute souffrance sur terre est le résultat de deux choses. La chute d'Adam et Ève et l'action du diable dans la vie des hommes. Mais ce n'est pas à nous de montrer du doigt, dire tu es coupable parce que ceci, cela. Nous pouvons voir ici que, au travers de ce passage, où on parle de Jérusalem, on parle d'Israël, on dit sa faute est expiée, c'est en réalité pour chacun d'entre nous que nous pouvons dire, nous avons le ministère de la réconciliation. Toute faute a été expiée par Jésus. Et que disons-nous au verset 3, une voix crie dans le désert. Quand Dieu fait quelque chose, il prépare les choses. L'annonce de la venue de Jésus s'est faite sur des centaines d'années. On a dit un Messie va venir, etc. Et une voix a crié dans le désert. Qui était-ce? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste s'est trouvé dans la Bible. On lui a dit, qui es-tu? Que dis-tu de toi-même? Il dit, je suis la voix. J'ai trouvé qui je suis. Est-ce que tu es le prophète? Est-ce que tu es le Messie? Est-ce que tu es ceci, cela? Il dit, non, je ne suis pas. Je suis la voix. Il a trouvé son identité dans la parole de Dieu, comme nous devons le faire chacun d'entre nous. Il crie dans le désert. Et c'est resté encore dans le langage actuel. Prêcher dans le désert. Parler au mur, la version plus banale, disons. Préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne, toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé, les endroits rocailleux aplanis. C'est comme un monde idéal que les gens aimeraient, ils aimeraient que ce soit, que toutes les injustices sur terre soient rétablies, que tout ça. Et quand on dit oui, mais il y a une voie, V-O-I-E, pas X, il y a une voie, il y a un chemin, alors des fois on n'est pas intéressé par le chemin. Pourtant, la voie V-O-I-X, elle dit qu'il y a un chemin que Dieu prépare. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. On a parlé des choses qui sont cachées et celles qui sont révélées. Qu'est-ce qui va être révélé? La gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel, c'était celle qui était tout au début. Adam et Ève étaient nus, mais ils n'en avaient pas conscience parce qu'ils étaient habillés de la gloire de l'Éternel. Ils ne voyaient pas leur identité d'être humain déchu, parce qu'ils n'étaient pas déchus et ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Et on va retrouver cette gloire de Dieu. D'ailleurs, même on peut dire, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. On expérimente déjà d'une certaine façon cela. Il nous est dit, mais la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, tout homme la verra. Donc maintenant, quelque chose qui est révélé, ça veut dire c'est montré à tous. Et ce qui m'a impressionné, c'est la suite de la phrase. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Vous voyez, jusqu'à présent, vous avez vu, ouais, ces histoires de gloire de Dieu, ça fait quelques décennies maintenant, on a eu le renouveau charismatique, il y a eu des gens qui ont commencé à prophétiser, on a dit la gloire par-ci, la gloire par-là. Mais ici, c'est, oui, c'est Dieu qui l'affirme. C'est pas moi qui le dis. C'est pas le prophète un tel. C'est pas l'apôtre chose. C'est l'Éternel qui l'affirme. Une voix a dit, maintenant c'est une voix qu'on peut dire céleste, quelque chose qui vient d'en haut, proclame un message. Une voix a dit, proclame un message. Alors qu'est-ce qu'on va dire comme message? Si on te dit, vas-y, proclame un message. Chacun d'entre nous, on peut être interpellé, proclame un message. Est-ce que je vais raconter ma vie, dire mes opinions, mes avis, etc.? Nous sommes comme les ambassadeurs. L'autre jour, j'ai entendu la radio, il y avait l'ambassadeur de Russie. On lui posait plein de questions. Et quelque chose m'a impressionné dans ses réponses. Il disait, je crois, etc. Ce n'est pas son rôle de dire ce qu'il croit. Il est un ambassadeur. Chaque réponse aurait dû être, peu importe ce que je crois, la position de mon pays est. Voilà. Mais c'était étonnant, il s'est mis, je crois, je vois, je... Ce n'est pas son rôle. Nous sommes des ambassadeurs. Nous n'avons pas à dire, mon avis est que, mon opinion est que... Non, dire, la position de mon pays, donc le royaume des cieux, la position du royaume de Dieu, est que... Et on dit le message. Donc, quand on dit proclame un message, nous disons, que dois-je proclamer? J'ai répondu, que dois-je proclamer? Voilà la proclamation. Toute créature est comme l'herbe. Toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Vraiment, le peuple est pareil à l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Donc le message que nous devons proclamer, c'est un message pour les êtres humains. Vous n'allez pas vivre éternellement dans la condition humaine dans laquelle vous êtes. Et votre vie est peu de choses par rapport à l'éternité. Et vous êtes peu de choses par rapport à Dieu. C'est pas pour vous abaisser, pour vous diminuer, pour dire vous êtes rien. C'est pour que vous preniez conscience de la place qui est de la vôtre dans l'univers. Donc tout grand homme que la Terre ait pu connaître, et même si on écrit plus tard des livres sur Nelson Mandela, et qu'on dit quel homme merveilleux c'était, il a marqué le XXe siècle, et tout ce que vous voulez. Et je ne touche en rien du tout à la qualité de cet homme, pour dire simplement, son temps sur terre est terminé. Et donc pour chaque être humain, c'est le message que nous devons proclamer. Il y a un temps où ça s'arrête. Alors, verset 9, « Monte sur une haute montagne, Sion, pour annoncer la bonne nouvelle. » Il y a une bonne nouvelle. Le pasteur John Austin, que j'ai toujours beaucoup apprécié, pour sa perspicacité, son humour, et disait toujours, la bonne nouvelle, c'est pas tu vas aller en enfer. La bonne nouvelle, c'est tu n'as pas besoin d'y aller. Mais la réalité est la même. Si tu ne veux pas aller au ciel, tu n'as pas besoin d'y aller. Donc tu iras dans l'autre destination. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle d'annoncer aux gens, vous allez en enfer. Mais annoncez-leur la bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin d'y aller. Quelqu'un a prévu une autre destination pour vous. Alors, monte sur une haute montagne. Annonce la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix. Jérusalem, pour proclamer la bonne nouvelle. Élève ta voix. N'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici votre Dieu. Il est étonnant que Dieu était le Dieu du peuple d'Israël. Et pourtant, il y avait multitude. Moi, je viens de relire tous les rois d'Israël et de Juda. Multitude de dieux et statues et idoles cohabitaient avec le Dieu d'Israël. Mais avoir une relation avec notre Dieu, une relation personnelle. La Bible dit qu'il n'y avait aucun autre Dieu avec qui on pouvait avoir une telle relation. Verset 10. Le Seigneur l'Éternel vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui et sa récompense est devant lui. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. Donc, à nouveau, le bon berger est manifesté déjà dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous, Ancien Testament, ça ne veut pas dire Ancienne Alliance. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a déjà la Nouvelle Alliance. Et dans le Nouveau Testament, des fois, il y a des choses de l'Ancienne Alliance. Mais ici, on a déjà l'image du bon berger. Quand Jésus, dans Jean 10, dit « Je suis le bon berger », s'identifie totalement avec ce passage où il est dit « Le Seigneur, l'Éternel vient ». Alors, à la fois cette douceur du berger qui prend les agneaux dans ses bras et les porte, et cette puissance incroyable, verset 12. « Qui a mesuré les océans dans le creux de sa main? Qui a fixé les dimensions du ciel dans une mesure et fait tenir toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes à la balance et les collines à la bascule? Qui a compris l'esprit de l'Éternel? Et quel homme a été son conseiller pour l'instruire? Avec qui a-t-il délibéré pour se laisser éclairer par lui? Qui lui a appris les sentiers du droit, lui a enseigné son savoir-faire et lui a fait connaître le chemin de l'intelligence? » Vous voyez, de temps en temps, il ne faut pas vouloir écraser les autres par nos certitudes. Mais il faut poser les bonnes questions. Dire, qui a fait tout ça? Les nations, quand on dit les nations unies ont pris une résolution. On a l'impression que voilà, maintenant, waouh, quel poids, quelle puissance. Et les résolutions ne sont suivies d'aucun effet. Et les tyrans, ils s'en moquent des résolutions. Et ça dure et ça dure. Et de temps en temps, il y a une guerre qui est déclenchée. Et de temps en temps, il y en a un qui est châtié. Mais d'une manière générale, on a l'impression que ça, c'est de la puissance. Et ici, il est dit, les nations sont pareilles à une goutte d'eau qui tombe dans un seau. Une goutte d'eau dans un seau, c'est pas grand-chose, hein. Elles sont comme la poussière sur une balance. Et les îles, comme une fine poussière qui s'envole. Vous voyez, des fois, on n'a pas besoin de faire des tas de commentaires. On lit juste la parole de Dieu et ça nous instruit et nous dit, mais oui, toute la sagesse de Dieu est contenue. Verset 16. Les forêts du Liban ne suffiraient pas à alimenter le feu de l'autel et ces animaux seraient en nombre insuffisant pour l'Holocauste. Là encore, j'ai lu les rois d'Israël et puis de temps en temps, ils faisaient des fêtes quand ils revenaient à Dieu et des centaines d'animaux étaient massacrés, égorgés et offerts, des centaines et les forêts du Liban, ils étaient célèbres pour les arbres magnifiques qu'il y avait, et ici il y a des comparaisons, toutes les nations sont réduites à rien devant lui, elles comptent moins à ses yeux que le néant et le vide. Je trouve la parole de Dieu est tellement précise et impressionnante. Les nations comptent comme le rien et le vide. Et alors on voit ces hommes qui sont enflés d'orgueil, c'est comme un ballon de baudruche, hein, comme on dit, mettez une aiguille, et il n'y a plus rien, il y a le vide en sort, c'est même là dans un ballon, il n'y a pas de vide, il y a de l'air, mais là c'est le néant et le vide. À nouveau, Dieu n'est pas inquiet pour son avenir, ni pour son trône. Verset 18, à qui voulez-vous comparer Dieu? À quelle représentation pourriez-vous le comparer? C'est un artisan qui fond la statue, puis un orfèvre la couvre d'or, y soude des chaînettes d'argent. Celui qui est trop pauvre pour une telle offrande choisit un bois qui ne pourrisse pas. Il sollicite les services d'un artisan, assez habile pour fabriquer une sculpture sacrée qui ne soit pas branlante. Donc il compare les dieux que les hommes se fabriquent à la réalité du Créateur. Et voilà le verset 21, celui de notre titre. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas révélé dès le début? N'avez-vous jamais réfléchi aux fondations de la terre? J'aime ça parce que il enseigne en fait avec des questions. Il faut se poser des questions. Posez-vous des questions. Des questions à vous-même, des questions les uns aux autres. Posez-vous des questions. Et les gens ne devraient pas être insouciants, mais se poser eux-mêmes des questions. Des questions sur quoi? N'avez-vous pas réfléchi aux fondations de la terre? C'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre. Voyez, révélation du globe terrestre dans l'Ancien Testament. Ses habitants sont pour lui pareils à des sauterelles. Il déroule le ciel comme une étoffe légère. Il le déploie comme une tente pour en faire son lieu d'habitation. C'est lui qui réduit les dirigeants à rien, qui rend les juges de la terre pareils à du vide. Ils ne sont même pas plantés, même pas semés, leur tronc n'a pas encore développé de racines en terre, qu'ils soufflent sur eux, ils se dessèchent alors, le tourbillon les emporte comme un brin de paille. Pourquoi c'est pas méprisant envers des dirigeants, des juges et d'autres personnes? C'est juste pour montrer la différence entre Dieu, qui est éternel, qui est tout-puissant, et les activités humaines, et ceux qui cherchent à s'élever eux-mêmes. Verset 25, « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ?» demande le saint. Alors là, certainement pas le Père Noël. Dernièrement, quelqu'un a partagé aussi sur Internet, a dit « Si seulement le 25 décembre, au lieu que le Père Noël descende du ciel, quelques personnes qui nous ont quittés pouvaient revenir parmi nous. » Alors j'ai répondu que, et si le 25 décembre quelqu'un était venu du ciel pour qu'on puisse se retrouver un jour tous ensemble? Voyez, mais on fait des comparaisons. Je vous assure que le Père Noël a fait des ravages dans la mentalité de beaucoup de gens parce qu'on identifie Dieu à un vieux bonhomme sénile et pervers, hein, parce qu'il n'offre des jouets qu'aux enfants riches. Pas bien. Levez les yeux vers le ciel et regardez. Qui a créé cela? C'est celui qui fait sortir les corps célestes en bon ordre. Il les appelle tous par leur nom. Son pouvoir est si grand, sa force si puissante, que pas un seul ne manque. Pourquoi dis-tu? Mettez votre nom à la place. Pourquoi dis-tu? Parce que dans la Bible, c'est « Pourquoi dis-tu Jacob? Et pourquoi affirmes-tu Israël? Ma situation échappe à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu. » Chacun, c'est des questions que les gens se posaient. Jacob, Israël, en disant, mais Dieu ne se souvient pas de moi. Mettez votre nom à la place. Pourquoi dis-tu? Pourquoi tu dis des choses comme ça? Ma situation échappe à l'Éternel. Ça veut dire, j'ai pas le choix. Je ne peux pas faire autrement. Dans ma situation, Dieu ne peut pas agir. Toutes ces choses qu'on déclare, la Bible ici nous interroge, elle dit, pourquoi tu dis ça? Excusez-moi de le dire, mais c'est stupide de dire ça. Vous avez aussi facilement la capacité de dire, Dieu peut transformer ma situation, que de dire, je n'ai pas le choix. Ça ne vous prend pas plus de salive, de souffle ou d'énergie, mais ça change totalement. Dernièrement, on partageait avec Joël aussi, j'ai dit, pourquoi, quand les gens disent des grossièretés, ils se sentent mieux après? On sort un gros mot, quelque chose. Ah, ça fait du bien. J'ai dit, pourquoi ça fait du bien? Parce que le diable essaye. Comme Dieu veut qu'on construise un monde qui soit merveilleux, qui soit beau, qui reflète quelque chose du ciel, le diable veut pervertir tout ce que Dieu a fait. Donc il cherche à créer un monde qui lui convienne à lui. Où tout est sale, tout est détruit, tout est un climat de haine et de violence et de toutes ces choses. Mais pour créer le monde, Hébreux nous dit, le monde a été formé par la parole. Donc on crée un monde sale en disant des grossièretés. et on crée un univers. Et sur le moment, quand on a une chose désagréable qui nous arrive, on est dans une situation pénible. Les gens disent, ah, en disant une grossièreté, ça me libère. Parce que le diable met une pression sur eux. Et dès qu'ils mettent leur bouche au service du diable pour dire quelque chose, soit de jurer, soit de dire une grossièreté ou autre chose, il a atteint l'objectif qu'il voulait. Il a utilisé leur bouche pour semer quelque chose dans le monde. Et tout de suite après, ils ressentent une forme de soulagement parce qu'il a atteint son objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça ne les aide pas réellement. La Bible nous dit qu'on entende plutôt des actions de grâce, qu'on mette notre bouche au service de Dieu. Et donc, ne dis pas, pourquoi dis-tu certaines choses? Et il reprend verset 28, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Pour terminer notre partage, juste qu'on fasse encore un petit tour dans Romains 10. On a vu des choses par rapport à Israël, Jérusalem, Israël, Jacob. Mais Romains 10 au verset 12 nous dit, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. Ça vous intéresse ça? Notre Dieu, comme disait l'évangéliste Ray Brooks, il disait, notre Dieu, il est riche, bon et généreux. C'était sa formule. Mais c'est vrai, c'est écrit là. Il se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. Verset 13, en effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Dans nos versions classiques, on a l'habitude d'utiliser quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Ici, c'est écrit, en effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment ces choses se feront-elles? Vous posez la question, certainement. Comment ces choses se feront-elles? Comme Marie, on revient un peu dans notre période avant, vous savez, avant la venue de Jésus. Marie a posé la question, comment ces choses se feront-elles? Puisque je ne connais pas d'homme. Je sais comment ça marche, un homme, une femme, ça donne un enfant. Mais comment ça va se faire? Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit, c'est la réponse. Dans Luc 1, 37, le Saint-Esprit viendra sur toi, te couvrira de son ombre. Il y a l'onction de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste sur le cœur, sur le corps de cette jeune fille et il y a une conception d'un enfant. Oui. Est-ce étonnant de la part de Dieu? Est-ce qu'il ne peut pas le faire? Mais bien sûr qu'il peut le faire, ce n'est pas un problème. Mais la question c'était comment? Et dans Romains 10 aussi, remarquez bien dans les prochains versets, Romains 10 verset 14, mais comment donc feront-ils appel en celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendraient-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Vous avez compris que je voulais souligner le mot comment?
Oui.
Merci. Mais parce que ça m'a étonné moi-même que dans un verset et demi comme ça, on est tout le temps et comment. Souvent, c'est les gens qui posent la question, mais comment Dieu va-t-il faire? Et ici, c'est Dieu lui-même, par l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, qui nous dit, mais comment? Comment ça va se faire? Alors, vous voulez le savoir, hein? La réponse, elle est dans la suite. Il est dit, comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Ésaïe, voyez, on revient à Ésaïe. Ésaïe dit, le Seigneur, il dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Et je demande alors, n'auraient-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur discours jusqu'aux extrémités du monde. Je demande encore, Israël n'a-t-il pas compris? On peut dire, est-ce que le peuple de Dieu n'a rien compris du message de Dieu? Est-ce qu'ils n'ont pas entendu? Est-ce que nous n'avons pas entendu? Est-ce que le Saint-Esprit n'a pas rappelé encore et encore, préparez le chemin du Seigneur, réveillez-vous, c'est le moment, considérez Dieu? Moïse dit le premier, « Je provoquerai votre jalousie par ceux qui ne sont pas une nation. Je provoquerai votre irritation par une nation sans intelligence. » Parce que bien que nous ne devions pas le faire, on se compare des fois à d'autres. On dit « Non, on est quand même plus intelligent, on a plus de révélations, plus de ceci, cela. » Et là, Dieu utilise de nouveau un moyen de quelqu'un peut-être que, bien que vous ne deviez pas le faire, vous aviez jugé inférieur à vous, tout à coup vous dépassez la plus de révélations. Donc ça doit vous secouer, vous réveiller. Pour Israël, c'était un peu ça que Dieu voulait faire. C'était, on peut dire, l'élite de Dieu. C'était les meilleurs. Et tout à coup, des païens viennent et ils les dépassent. Ils ont plus de révélations et plus de connaissances. Et donc ça devait provoquer une jalousie. Et Ésaïe, il pousse la hardiesse. Parce que les prophètes, ils disent des choses des fois qui les dépassent largement le... tout ce qui est conventionnel, tout ce qui est accepté, tout ce qui est bien. Il déclare, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis révélé à ceux qui ne demandaient rien. Mais au sujet d'Israël, il dit, à longueur de journée, et je voudrais terminer sur cette image pour vous, toute la journée aujourd'hui, tout le monde dit toute la journée ?
Toute la journée.
À longueur de journée, que fait Dieu ? Qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui, dimanche ? Une chose, d'après la Bible ici, je tends les mains vers chacun de vous. Ici, il est dit, je tends les mains vers un peuple désobéissant et rebelle. Même si vous êtes, c'est votre mauvaise journée, d'être désobéissant et rebelle, Dieu a une attitude envers vous. Il tend les mains vers vous. Il étend les bras. Et il dit, reviens, je suis là pour te prendre comme le bon berger prend ses agneaux, il les tient contre lui. Je suis prêt, je te veux t'accueillir. Et c'est dans ce contexte qu'on veut dire, quel que soit notre état, quelle que soit notre situation, qu'est-ce qu'il veut faire pour nous aujourd'hui? Il veut donner de la force à celui qui est fatigué. Il veut multiplier les ressources de celui qui est à bout. Vous êtes à bout des fois? Vous êtes fatigué? Normalement, ça arrive, hein? Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les adolescents, c'est ceux qui devraient avoir le maximum d'énergie. Et pourtant, la Bible nous dit, même eux peuvent se fatiguer et s'épuiser. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Donc, on a dit que Dieu soit élevé, et nous allons appliquer ce principe de celui qui s'abaisse sera élevé. On considère que nous ne valons pas grand-chose devant Dieu, on s'humilie devant lui pour qu'il nous élève au temps convenable. Et alors on a cette vision de ce que Dieu veut pour nous, qu'on soit là-haut comme les aigles. Ils dominent la situation. Ils ne sont pas émus par ce qui se passe. Des fois ils sont même au-dessus des nuages. Hein. En dessous c'est gris. En dessous il y a peut-être toutes sortes de situations sous les nuages. Mais l'aigle, il s'élève et il est au-dessus. C'est notre position. C'est celle que Dieu nous destine. D'être assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Merci Seigneur pour la richesse de ta parole. Merci pour un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Merci de pouvoir nous approcher de toi et découvrir que la Bible est vivante encore aujourd'hui. Que tu es là, présent pour chacun d'entre nous. Que tu as un dessein et un destin pour notre planète Terre. Que tout n'est pas noir, que tout n'est pas gris, que tout n'est pas décourageant, mais que tu as prévu un plan de salut. Et même si des fois nous pouvons nous poser des questions et comment, nous savons que tu as préparé un moyen. Et nous sommes là, Seigneur, pour annoncer que nous préparons le chemin du Seigneur. Et que pour le moment, c'est un temps de grâce où chacun peut encore rentrer dans cette alliance que tu as faite avec chaque être humain par le sacrifice de Jésus. Merci Seigneur parce que nous allons aussi conserver cette image que tu es là et que tu tends tes mains vers chacun d'entre nous. Et nous prenons cette décision de répondre à ton appel et à ton désir. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.